Donc, comme vous le savez, on vit un changement brutal de climat, assez rapide. Par exemple, si on regarde depuis les années 1980, vous avez un changement d'à peu près 1 degré depuis les années 80. Et selon les scénarios d'émissions de carbone, on s'attend d'ici la fin du siècle à une augmentation encore de 0,3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Ça va s'accompagner également d'événements qui sont liés à cette modification du climat, c'est-à-dire la fonte des neiges, la montée des niveaux des mers, et également des multiplications d'événements extrêmes climatiques, du type sécheresse ou orage. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelle va être la conséquence de ce changement climatique sur la biodiversité. Alors, si on s'intéresse aux prédictions de l'Union internationale de la conservation de la nature, par exemple, on peut prédire qu'il y aura d'ici la fin du siècle, 52, à cause du changement climatique, 52% d'extinction des amphibiens, 71% d'extinction des coraux et 35% d'extinction des espèces d'oiseaux. La première question peut-être qui vous vient en tête, c'est comment on fait pour réaliser ces prédictions? Comment on prédit la biodiversité de demain, l'impact du changement climatique? Donc il y a un certain nombre d'outils qui nous permettent de prédire l'impact du changement climatique sur la biodiversité, mais intuitivement, ça paraît logique de se dire on va regarder ce qui se passe dans le passé pour prédire ce qui va se passer dans le futur. Je vous ai montré un graphe donc, qui correspond à, par exemple, le nombre de populations d'une certaine espèce, le nombre d'espèces, le nombre d'habitats, n'importe quel paramètre qui peut être affecté par le changement climatique en fonction du temps. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire ces observations, ce qu'on voit en bleu. Donc, vous voyez une diminution, par exemple, du nombre de populations, et se dire si ça continue de la même manière, on peut prédire ce qui va se passer dans le futur, c'est-à-dire avoir cette diminution qui va continuer, c'est ce qu'on appelle les prédictions, ce qu'on a en rouge. Par contre, ces prédictions, il y a un certain taux d'incertitude, c'est-à-dire qu'on considère que l'impact passé sera le même dans le futur. Mais il pourrait être un peu plus fort, ce qui est représenté avec la ligne vers le bas, ou un peu plus haut, un peu plus faible. Et ça, cette incertitude, elle est vraie pour beaucoup d'espèces, et particulièrement sur les espèces qui nous intéressent, ce qu'on appelle les espèces ectothermes. Alors c'est quoi une espèce ectotherme? C'est ce qu'on appelle communément une espèce à sang froid. Donc ce sont les reptiles, les amphibiens, les insectes, les poissons, et qu'on oppose aux espèces endothermes, en bleu ici, donc les mammifères, les oiseaux. Alors on appelle ça des espèces à sang froid, mais c'est une erreur, hein, ils n'ont pas le sang froid. Ils ont la température du corps qui dépend de la température extérieure. Il fait chaud à l'extérieur, leur température du corps est chaude. Il fait froid à l'extérieur, la température du corps est froide. Et ça, c'est tout ce qui va régir leur vie, c'est-à-dire la température extérieure va régir comment ils vont se reproduire, comment ils vont survivre. Donc là, tout de suite, on commence à comprendre pourquoi ces espèces vont être fortement impactées par le changement climatique. Donc si je représente ce que je viens de vous dire graphiquement, c'est juste un simple graphique, c'est pas très compliqué. Donc là, par exemple, ça peut être la reproduction, ça peut être la survie, ça peut être n'importe quel paramètre de vie de l'espèce. Donc cette, par exemple, si c'est la survie, elle va augmenter avec la température jusqu'à ce qu'on atteint un optimum. Puis elle va redescendre. Donc des deux côtés, on aura ce qu'on appelle des limites, c'est-à-dire des températures en dessous de laquelle et au-dessus de laquelle la survie est nulle, la reproduction est nulle. Et donc cette forme en cloche va être la raison pour laquelle on aura un certain nombre d'incertitudes sur les effets du changement climatique. En effet, qu'est-ce qui se passe lors d'un changement climatique? Alors, on va avoir deux options. Donc la première, c'est imaginons que à l'heure actuelle, le présent, soit représenté par cette barre bleue. Donc vous voyez, la température à l'heure actuelle est un peu en deçà de l'optimum de l'espèce sur sa reproduction, sur sa survie. Donc si on a un réchauffement, on va avoir une augmentation de la survie, une augmentation de la reproduction, et donc on aura des effets qui pourront paraître plutôt positifs, a priori. Maintenant, si on se situe dans ce cadre-là, c'est-à-dire à l'heure actuelle, la température est la meilleure en fait pour ces espèces, c'est là où ils survivent le mieux, où ils reproduisent le mieux. Une augmentation de la température va avoir plutôt un effet négatif avec une baisse de la survie et une baisse de la reproduction. Et donc tout ce qui a lieu, en tout cas une partie de ce qui a lieu à l'incertitude des effets futurs du changement climatique, c'est de se poser la question, est-ce qu'on est plutôt dans un cadre d'option 1 ou d'option 2? Est-ce que ça aura des effets négatifs ou positifs sur les ectothermes? Et ça, une manière de répondre, c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Nous utilisons une approche expérimentale qui nous permet de modifier les conditions climatiques et d'appliquer les conditions futures que l'on aura dans 50 et 100 ans. Donc pour ça, on utilise le métatron. Donc de nouveau, c'est cette structure que vous avez vue, enfin que vous avez probablement vue entre LORP et COMMON lorsque vous allez de LORP à COMMON, sur votre gauche. Donc c'est une surface de 4 hectares composée de 48 enclos. Alors c'est quoi un enclos? Un enclos, c'est une structure fermée par des filets, par des bâches, et dedans il y a une végétation qui est relativement naturelle, de genre prairie humide, très diversifiée en termes de végétation, avec entre 60 et 100 espèces de végétaux par cage en moyenne, et une très belle diversité d'insectes, d'invertébrés de manière générale. Donc ça, on représente en fait un habitat de vie pour un certain nombre d'espèces. Et ce qui est le point fort de ce système, c'est qu'il existe un certain nombre d'outils qui permettent d'enregistrer les paramètres climatiques de chacune des cages, d'accord ? Donc ils nous permettent d'enregistrer en temps continu ce que vous voyez sur la droite, la température, l'hygrométrie et la luminosité. Et en plus de l'enregistrer en temps continu, on peut le modifier, ces conditions climatiques. Grâce à un système de volant que vous voyez qui peut se fermer et un système d'arrosage, on peut rendre les cages plus ou moins humides, plus ou moins chaudes, plus ou moins froides. Et c'est ce qui nous permet ce système qui est un des seuls systèmes au monde à pouvoir faire ça sur de larges échelles. Hein, c'est le seul système au monde sur une si grande surface. C'est donc de modifier les conditions et de simuler les conditions futures. Et dans ces conditions futures, on peut mettre un certain nombre d'espèces pour voir quel va être l'impact de ces conditions futures sur la vie, sur l'entièreté de la vie de nombreuses espèces. Par exemple, ce que j'ai fait depuis 2011, c'est que j'ai créé des conditions climatiques, trois types de conditions climatiques, durant l'été, donc c'est principalement durant l'été qu'on peut changer ces conditions climatiques. Et particulièrement, donc, on a réussi, après quelques tests, à faire donc, des températures qui correspondent à peu près aux températures actuelles, ici, et des températures qui sont 2 à 3 degrés plus chaudes. C'est uniquement ça, et ça c'est les prédictions qu'on peut avoir pour, par exemple, 2080. Et donc on peut après comparer l'effet de ces deux températures-là, de ces deux climats, sur un certain nombre d'espèces. Donc pour l'instant, on s'est intéressé à plus d'espèces que 4 espèces, mais majoritairement donc, on s'est intéressé aux papillons, aux lézards, aux crapauds et aux libellules. Et donc ce sont des espèces qu'on appelle des espèces modèles. C'est-à-dire nos conclusions, on ne veut pas simplement qu'elles aient un intérêt pour ces espèces-là, c'est qu'on essaie de les généraliser. Donc en travaillant sur de nombreuses espèces d'ectothermes, on essaie d'avoir des conclusions qui peuvent être applicables sur d'autres espèces que ces espèces-là. Et donc pour vous illustrer le type de recherche que l'on mène, je vais vous montrer particulièrement ce que l'on fait sur le lézard vivipare. Un lézard vivipare, ça s'appelle vivipare, ce n'est pas réellement une espèce vivipare, c'est ce qu'on appelle une espèce ovovivipare. C'est-à-dire que la femelle, elle a des œufs, comme vous pouvez voir sur la petite image qui est là, mais le petit se développe entièrement dans le ventre de la mère, et quand la femelle pond ses œufs, ils sont déjà prêts, les petits. Donc ça, c'est la photo que vous voyez en bas à droite, là, c'est une minute à une heure après la ponte des œufs. Les petits sont prêts, ils sortent immédiatement, et puis ils sont indépendants. Donc c'est ça pour ça que cette espèce possède le nom de lézard vivipare. C'est une espèce, en fait, ovovivipare. Cette espèce, pourquoi on s'intéresse à cette espèce ? Parce qu'elle est très commune, c'est une des espèces de lézards les plus communes. C'est d'ailleurs son nom en anglais, ça s'appelle lézard commun. Et quand vous voyez la carte, vous pouvez voir que cette espèce est présente d'Angleterre à l'Asie et de la bordure de l'Espagne à la Scandinavie. Vous pouvez la trouver dans un nombre d'habitats très répandus. Donc c'est une des espèces sur les lézards qui est le plus étudiée. Et particulièrement pour le changement climatique, qu'est-ce qui nous intéresse ? On a dans le laboratoire des personnes qui travaillent sur des populations dans les Cévennes depuis plus de 25 ans, à peu près 25 ans, je crois, cette année, et qui étudient l'impact du changement climatique sur le fonctionnement des populations. Donc, c'était un long suivi de 25 ans. Et ce qu'ils observent, un énorme impact des modifications du climat sur le fonctionnement des populations dans les Cévennes. Et c'est pour ça qu'on travaille sur cette espèce. C'est ça, ce qu'ils ont observé, c'est ce qui s'est passé avant. C'est quel est l'impact de 25 ans de réchauffement climatique sur cette espèce. Et de nouveau, moi ce qui m'intéresse, c'est quel est l'impact futur. Est-ce que l'impact futur va être le même que celui qu'ils ont observé en milieu naturel? Est-ce qu'il va être plus fort? Est-ce qu'il va être plus faible? Et c'est pour cette raison qu'on utilise le métatron comme outil expérimental afin de pouvoir prédire les impacts futurs sur cette espèce-là et sur d'autres espèces de manière générale. Alors je vais vous donner quelques petits résultats. J'ai divisé ça en deux catégories, parce que les impacts du changement climatique que l'on voit sur les jeunes lézards et sur les lézards plus âgés ne sont pas les mêmes, et c'est l'entièreté de ces résultats-là qui nous permet de comprendre l'impact global du changement climatique. Donc d'abord, quel est l'impact sur les jeunes lézards, ce qu'on appelle des juvéniles? C'est relativement simple dans notre domaine, mais en effet, lorsqu'il fait plus chaud, les juvéniles grandissent plus vite. Ils mangent plus, ils sont plus actifs, ils grandissent beaucoup plus vite. Donc là, je vous ai montré sur un graphe, donc ça s'appelle la croissance, hein, combien de millimètres les petits nouveau-nés ont pris durant l'été. En rouge, c'est le climat futur et en jaune, c'est le climat présent. Vous voyez, en climat futur, ils grandissent nettement plus qu'en climat présent. Et pour un reptile, la croissance et la taille, c'est extrêmement important. Ça régit tout le reste quasiment de la vie, et particulièrement la reproduction de ces petits lézards. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'à cause de cette croissance qui est beaucoup plus importante, les petits lézards se reproduisent plus tôt dans leur vie. Donc, lorsqu'on regarde en milieu naturel et dans cette expérience, donc là, je vous représente le pourcentage des individus qui se reproduisent dès un an, d'accord ? On voit qu'il y a peu d'individus en climat présent, et c'est pareil en milieu naturel, qui se reproduisent dès l'âge d'un an. À peu près, là, on voit 35%, donc il y a environ 70% de ces petits juvéniles, de ces petits nouveau-nés qui, à un an, ne se reproduisent pas, mais vont se reproduire à partir de deux ans. Par contre, en climat chaud, vous pouvez voir que cette proportion d'individus qui se reproduisent dès un an arrive à 75%. C'est-à-dire qu'à cause de ce petit réchauffement de, je vous rappelle, de 2 degrés, les individus passent de à peu près 30% à 75% qui se reproduisent dès la première année. Vous voyez, ils grandissent plus vite, ils se reproduisent plus tôt. Donc ça a l'air plutôt positif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des adultes, plus tard dans la vie ? Et bien là, c'est un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que plus tard dans la vie, ce réchauffement de 2 degrés a un fort impact sur la survie de ces adultes. Donc vous voyez, en milieu actuel, présent, là je vous ai représenté le pourcentage des survivants sur un an. Et c'est pareil qu'en milieu naturel, c'est une espèce qui sur un an survit à peu près de 50%. Il y a 50% des adultes qui survivent au cours d'un an. Et lorsqu'on réchauffe de 2 degrés, vous voyez, ça descend à 25%, deux fois plus. Deux fois moins de survie. Donc on a un fort impact négatif sur la survie de ces espèces et sur l'âge adulte. Donc en tout, on a des effets qui sont plutôt positifs chez les jeunes, plutôt négatifs sur les adultes. Si on résume tout ça, ce qu'on a l'impression, et ce qui est confirmé également par d'autres résultats, c'est qu'on a une sorte d'accélération. C'est-à-dire que les petits, en climat chaud, mangent plus, grandissent vite, se reproduisent plus tôt, meurent plus tôt, d'épuisement. Donc, en gros, on a une accélération du rythme de vie qui fait qu'on a un changement de comment l'espèce fonctionne. Et vous allez me dire, mais quel est l'impact, est-ce que ça a un impact sur le devenir des populations, est-ce que ça a un véritable impact? Donc c'est ce qu'on a étudié en utilisant ces résultats-là. On a regardé comment la viabilité des populations pouvait être affectée. Alors, la viabilité, c'est est-ce que les populations vont persister? Est-ce qu'elles vont s'éteindre? En combien de temps elles vont s'éteindre? Quel est le devenir de cette espèce en termes global, c'est-à-dire au terme de la France et au niveau de l'Europe? Donc là, je vous ai représenté, j'espère que ça se voit bien, les populations qui sont couramment étudiées en Europe. Donc ce n'est pas toutes les populations, évidemment, c'est beaucoup plus que ça. Mais ça, c'est des populations sur lesquelles nous avons des informations. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué les résultats qu'on a observés dans notre étude pour regarder le devenir de ces populations. Les populations que vous voyez qui ne sont pas en vert sont des populations qui vont voir leur devenir beaucoup plus menacé. C'est-à-dire qu'on va avoir une forte probabilité d'extinction de ces populations. D'accord ? Donc vous voyez, c'est surtout dans le sud de l'Europe. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près 15 à 30% des populations qu'on prédit comme éteintes d'ici la fin du siècle, selon nos résultats qu'on a obtenus avec l'approche expérimentale. Donc, on aura une forte extinction vers le sud de l'Europe, et resteront évidemment les populations qui sont plutôt dans le nord de l'Europe. Et ça concerne d'ailleurs des populations en France, avec particulièrement l'observation de quelques populations en France qui se sont éteintes depuis une vingtaine d'années, à cause justement de ce réchauffement. Donc, vous allez me dire après... Et puis, ça, c'est quoi l'importance? C'est une espèce de lézard qui va disparaître, et encore même pas certaines populations. Donc, la question, c'est pourquoi c'est vraiment important de s'inquiéter de l'extinction de certaines populations de ce lézard? C'est que ce lézard, il vit pas seul. Il vit en interaction avec beaucoup d'espèces. C'est ce qu'on appelle une communauté, c'est-à-dire c'est toutes les espèces qui interagissent avec ce lézard. C'est-à-dire des prédateurs. Là, je vous ai mis un serpent, je vous ai mis un oiseau, des proies, des araignées, par exemple, ici, des grillons. Et ils vivent tout ça dans un environnement qui est l'habitat, la végétation. Maintenant, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on enlève le lézard. Qu'est-ce qui se passe? Les prédateurs n'ont plus une de leurs proies, les proies n'ont plus leurs prédateurs, tout est modifié et la communauté n'est plus en équilibre. Et ça, ça peut amener à l'extinction de communautés, parce que vous enlevez une pièce dans un puzzle, le puzzle il est plus complet. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de se poser la question, est-ce que cet impact du changement climatique sur le lézard peut avoir des répercussions sur ses prédateurs, des serpents, des oiseaux, et sur les proies? Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille à l'heure actuelle. Donc on s'intéresse à particulièrement les proies de ce lézard et la végétation. Et on se demande, est-ce que le changement climatique peut également affecter ses proies et cette végétation? Donc si je vous montre des résultats très préliminaires, ça fait 3 ans maintenant qu'on manipule réellement, 3 à 4 ans qu'on manipule réellement le climat dans ces métatrons, et on fait un suivi de la diversité végétale et de la diversité des insectes dans le métatron. Donc là, c'est, je vous rappelle, seulement 3 ans, ce qui est très court en termes de changement climatique. Donc là, je vous montre le nombre moyen d'espèces par cage en climat présent et en climat futur. Et on voit qu'on a une baisse du nombre d'espèces végétales en climat plus chaud. De nouveau, je vous rappelle, c'est uniquement 2 degrés plus chaud. Et environ de moins 10 espèces dans les climats plus chauds. Sur les insectes, on observe l'inverse. Donc là, ce que je vous ai représenté, ce ne sont pas le nombre d'espèces, mais le nombre de familles. Alors une famille, c'est juste un regroupement d'espèces qui sont proches. Donc on voit que le nombre de familles augmente en climat chaud, avec à peu près plus 7 espèces par rapport au climat présent. Donc en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on voit un certain nombre d'impacts sur la végétation et sur les insectes de ces 3 ans de changement climatique. Et ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est évidemment de globaliser, de mieux comprendre comment sont arrivés ces résultats. Et particulièrement, juste pour finir avec ce que l'on fait à l'heure actuelle, on se pose la question de, est-ce que cette modification du climat a impacté directement les insectes et la végétation? On pourrait imaginer qu'il fait plus chaud, les insectes survivent mieux, la végétation survit moins bien. Ou est-ce que ça se passe par l'intermédiaire du lézard? En effet, on a vu qu'en climat plus chaud, le lézard survivait moins bien, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a plus d'insectes, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a plus de végétation. Donc ce que l'on s'intéresse, c'est de distinguer les effets du climat direct sur toute cette communauté ou indirect par l'effet du lézard.